Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Auditrices et auditeurs de RFI à travers le monde, émission spéciale sur le mouvement Saint-Soleil, émission spéciale sur la peinture contemporaine haïtienne. Pour en parler, un invité de marque, un artiste, Philippe Dodard, qui est au studio. Philippe Dodard, ça va, le bonheur?
Ça va, et on a toujours le bonheur quand le soleil brille. soleil brille dans le cœur quand on crée.
Ouais, et déjà qu'on va parler de Saint-Soleil, de Tiga. Est-ce que pour toi, Tiga était Saint-Soleil?
Bon, pour moi, Tiga était un génie. Un homme qui savait réveiller chez l'autre le talent artistique et justement et ce pouvoir créatif. Chez les enfants surtout, et chez particulièrement dans le village de Saint-Soleil où il a découvert cette créativité naturelle qui est, moi je pourrais dire, qui est dans l'ADN même de l'homme haïtien. Mm-hmm. Donc il suffit de pouvoir justement faire un clic, ouais, pour débloquer ce flot de ouais, créativité.
Mais ce monsieur qui s'appelle Tiga, qui s'appelle Gaout au fait, de quelle jeunesse vient-il?
Bon, Tiga a été élevé seul avec sa mère. Ensuite, il a grandi chez son oncle. Donc, il était un fils naturel. Et il n'a jamais connu son père. Donc, et même des enfants, en parlant à Tiga, ils parlaient justement de l'art. Et ce que Tiga aimait beaucoup, les contes haïtiens. Et les enfants aimaient tellement Tiga parce qu'il avait créé le Potomitan. C'était pour les enfants. C'était pour rendre les enfants heureux à travers les arts. Et il avait créé ce qu'il appelle la rotation artistique. Ouais. Donc, Tiga n'avait pas une méthode d'enseignement, mais ouais, il mettait l'homme, la femme, l'enfant en contact direct avec ce qu'il appelait les différents supports sensibles. Ça veut dire, c'était les couleurs, c'était les encres, c'était l'argile, c'était le son, la parole, le mouvement, la danse et le tambour.
Donc, la rotation artistique, il a mis ça en place à la montagne, à Fermat?
Non. Et la rotation artistique a pris naissance au Potomitan. Au Potomitan, c'était un centre artistique qui est exactement dans cette rue qu'on a percée pour passer de la Lue au Champ de Mars. Donc, en fait, cette rue a traversé carrément le local du Potomitan. Donc, il est devenu en fait un legba.
Ouais.
Ok, c'est comme une barrière qui s'ouvre maintenant sur la place de la culture, qui est le Champ de Mars. Mais c'était à l'origine le Potomitan qui était là. Et moi, j'ai fréquenté le Potomitan, j'avais l'âge de 13 ans. C'est en sortant de l'école au petit séminaire que j'ai vu, mais tiens, c'est quoi ça? Je suis rentré et j'ai découvert qu'il y avait des jeunes qui faisaient de la peinture, qui faisaient même des expositions. Et je me suis dit, mais c'est ma place.
Donc, à l'époque, on n'est pas encore dans le mouvement Saint-Soleil.
Pas encore. Parce que là, je parle, le mouvement Saint-Soleil a commencé vers les années 69 au Tiga et avec Maud et Robert. Et dont le mari de Maud était un géologue. Donc, il voyageait à travers le pays. C'était un Français qui travaillait, ouais, pour l'Institut français d'ailleurs. Il travaillait, il voyageait et Maud voyageait avec son mari pour découvrir justement des richesses de notre monde, de patrimoine souterrain. C'est comme ça qu'ils ont fait des fouilles dans les grottes à la Gonave, qu'ils ont découvert justement des artefacts de Taïno qui habitaient l'île avant l'occupation espagnole. Donc, et il a commencé à s'intéresser aussi à des recherches sur le vaudou, à toute la créativité et les symboles que l'on retrouve dans les vervets. Et moi, très jeune, j'ai appris à faire des reproductions de pièces indiennes et amérindiennes, et aussi à étudier des reproductions de vervets qu'on faisait sur des petites plaques de céramique qu'on faisait cuire au four. Donc c'est comme ça que très jeune, je me suis familiarisé avec ce graphisme qui est tout à fait particulier au vaudou. Donc c'était une manière de connaître la culture haïtienne à travers les arts. Et la technique de la rotation artistique, l'enfant était libre. libre de choisir son, le médium, le support sensible qu'il pouvait exploiter. Et à chaque fois que, qu'un enfant montrait à Tiga une œuvre finie, il disait simplement « continue ». Il ne donnait pas d'appréciation « oui, c'est joli ». D'ailleurs, il n'aimait pas le mot « joli ». Pour lui, la manière d'apprécier une œuvre d'art, c'était le bon, le bien et le beau. C'était les trois B.
Ouais. Trois catégories conceptuelles pour nommer les œuvres d'art. Mais le nom Saint-Soleil vient d'où?
Voilà, maintenant, et, avec toutes ces excursions avec Maud, Maud finalement avait fait l'acquisition d'un terrain à Soissons, la montagne, et a demandé à Tiga de l'accompagner maintenant pour la construction de sa maison à Soissons, la montagne. Et Tiga, bon, en tant qu'artiste, l'accompagnait et ils ont commencé à travailler. Et autour d'eux, il y avait tout un staff de techniciens et d'artisans, je pourrais dire, qui étaient des maçons, des artisans maçons. Il y avait le Voix Exil, qui était un boss maçon. Il y avait Prosper Pierre-Louis, etc. Il y avait aussi la famille Louisiane. Okay. Louisiane était c'est elle qui faisait le café. Et qui observait Tiga. Des fois, il montait là-haut avec sa peinture, il peignait aussi. Et quand il a remarqué que Louisiane était intéressée à ce qu'il faisait, il a dit, ah, tiens, tu t'intéresses à la peinture, mais je te donne du papier. Et Tiga lui a apporté et des morceaux de hardboard qui est préparé avec des couleurs. Il était étonné de voir qu'ils avaient une iconographie tout à fait différente. Ok, de ce qu'on appelle et de ce qu'on appelait au centre d'art la peinture primitive haïtienne. Ok, et là le mouvement Saint-Soleil est venu à quelque chose de neuf. Et on retrouvait aussi le mouvement pointilliste qu'on retrouve chez certains primitifs africains ou et même d'Australie ou bien de l'Océanie. Donc il a trouvé ça assez intéressant, ce mouvement pointilliste là. Et et il a fait l'association entre les différents peuples, ok, qui bon, je ne veux pas dire dit primitif, mais qu'on appelle les peintres naïfs et auxquels on dit maintenant qu'on appelle les objets premiers,
ouais.
Okay? Ouais, pour ne pas utiliser le mot primitif dans le mauvais sens. Donc ces artistes ont commencé à s'exprimer et il a vu aussi comment que il y avait aussi toute une nouvelle iconographie du vaudou qui prenait naissance.
Donc ce mouvement Saint-Soleil vient d'abord de la générosité artistique de Tiga, de son appétit du don.
C'est ça, son appétit du don, son appétit de favoriser la créativité chez l'autre, okay, pour que l'autre s'exprime librement et découvre aussi sa propre personnalité artistique. Et à l'époque, on voyait que un Prosper Pierre-Louis était différent d'un Le Roi Exil ou bien d'une Louisiane Saint-Florent. Chaque personne avait son style propre et chaque personne et chaque artiste, il les orientait vers des matériaux différents aussi. Hein.
Mais pour qu'on puisse appeler le mouvement Saint-Soleil, il doit bien y avoir une espèce d'invariant artistique qui existe dans toutes les œuvres. Pour qu'on puisse les catégoriser mouvement Saint-Soleil.
Oui,
quel serait cet invariant artistique?
Bon, Tiga était, je pourrais dire, le gourou de Saint-Soleil. C'est pas qu'il leur montrait comment peindre, mais il les orientait pour justement leur permettre de prendre cette liberté de créer et d'utiliser et d'expérimenter, d'inventer. Et tout ce qui est autour d'eux dans la nature, comme la terre, les plantes, les minéraux, etc., pour créer des couleurs. Et aussi être surtout proche de leur culture, libérer ce qu'ils avaient en eux culturellement, mais pas seulement à travers la peinture, parce que le concept de Saint-Soleil restait toujours dans la rotation artistique. Saint-Soleil faisait aussi du théâtre, il faisait de la musique. Parce que la musique était déjà naturelle chez eux, parce qu'ils étaient des tambourineurs, ils pouvaient chanter. Un artiste comme le Voix Exil, il fait des concepts de peinture qui sont basés sur les sons des animaux et nocturnes, par exemple. Hein? Ouais. Et c'est là qu'il est venu avec cette notion de petits points sur le tableau qu'il compare maintenant au firmament. dans tous ces points qu'il voyait dans, les, dans le ciel le soir. Il les admirait tout en écoutant aussi le son des cris des anolipes ou bien de ce qu'on appelle les cookies le soir.
Ouais.
Et dans, dans la zone de Soissons la montagne, c'est presque une mélodie naturelle. On n'a pas besoin de musique parce que la musique est là le soir. On se couche, on regarde le ciel et on écoute cette nature qui s'exprime. Et le voix exil a trouvé une manière justement de rendre ça en, en peinture et en dessin. Et c'est comme ça que tout un village a commencé à être créé. Ouais. Et de là aussi, Tiga a développé ce qu'il appelle la notion des villages créatifs. Parce qu'il pensait que le développement aussi pouvait être basé sur la créativité artistique. Parce qu'autour de l'art, maintenant, il a commencé à organiser le village. D'ailleurs, ils sont toujours là, là-haut. La majorité de ces artistes, ils ont construit leur maison, bien qu'ils sont restés proches de la terre aussi. Mais ils sont restés fidèles à leur village et ils n'ont pas vendu leur terre. Et il y a près de, je ne sais pas maintenant, plus d'une trentaine d'artistes qui habitent
qui
là-haut.
Qui vivent là-bas.
Qui vivent là-haut et qui vivent bien de leur travail.
De leur travail, ouais. Oui. Mais Philippe Dodard, est-ce que dans la démarche artistique de Saint-Soleil, est-ce que Tiga fait un pied de nez à l'académisme pour laisser libre cours à l'intuition?
Je crois que oui. Il avait même invité Malraux à venir à Saint-Soleil. Et Malraux était absolument impressionné par ce qu'il avait vu à Saint-Soleil. Et ils ont fait une performance artistique. À l'époque, le mot performance artistique n'existait même pas. Donc, ils ont fait une scène de théâtre qui a pris toute la montagne. Il y avait la cigouave, etc., qui a fait son apparition comme une espèce d'animal imaginaire que les paysans ont imaginé. Et puis, j'étais là ce jour-là. Il y avait comme une espèce de vallée entourée de montagnes et c'était toute la montagne qui était la scène. On dirait que la montagne faisait partie même des acteurs et était en même temps la scène. Et les tableaux maintenant déambulaient comme des esprits de la montagne qui descendaient et pour apporter maintenant la bonne nouvelle, pour apporter la joie, le sens de la créativité, les couleurs et puis l'imaginaire du peuple haïtien. Et les enfants étaient absolument fascinés. Et chez Tiga, justement, on faisait pas de différence entre un enfant et un adulte. Hein? Parce que quand il s'agit de créativité, c'est ce qui sort naturellement de l'imaginaire humain qui est important, c'est pas son âge. Et des fois, plus l'artiste était naïf, entre les guillemets, plus c'était important parce que l'influence intellectuelle déjà peut tuer la créativité.
Ouais.
Parce que quand il y a trop de connaissances, ça tue la connaissance.
Okay. Donc, nous sommes quand même à Soissons la montagne, un milieu paysan, des paysans prennent les pinceaux avec Tiga. Est-ce que Tiga croyait dans un génie rustique?
Bon, je ne veux pas dire un génie rustique, hein. On pourrait dire un génie authentique plutôt.
Ouais.
Hein. Vous dites rustique dans le sens de brut.
Non, hein? même pas dans le sens où c'est hors de la ville, où c'est hors d'une concentration urbaine.
Bon, et je pense que Tiga pensait que plus on était justement éloigné de ce développement urbain, des fois qui nous éloigne de notre sens naturel de la vie, qui est proche de la nature, c'était mieux encore pour les artistes parce qu'ils vivaient beaucoup plus proche de la nature. Donc, ils avaient beaucoup plus le potentiel d'être comme des demi-dieux, comme des dieux, parce que ils disaient que Dieu crée et a fait la création et l'homme continue. Donc, je pense que Tiga avait ce génie d'inculquer à ses artistes des concepts. Okay? Donc, quand il dit que Dieu a créé le monde, okay, cet univers, et l'homme continue, ce qui est vrai. Hein? Nous créons des routes, nous créons des maisons, des villes, et des concepts de tout genre, des inventions. Et on a inventé l'avion, donc en fait ce sont une continuité de la création.
Ouais. Okay? Mais Est-ce que dans
cette connaissance que Dieu nous a infusée.
Absolument.
Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Et lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux.
Est-ce que dans Saint-Soleil, il y avait un côté école où les habitants de la zone s'asseyaient devant Tiga et prenaient des cours de peinture?
Non, justement, ce n'était pas la méthode de Tiga. Tiga mettait les artistes en contact avec les supports sensibles et les laissait faire. Ok, et ça veut dire que la créativité à Saint-Soleil était totalement spontanée. Et c'est ce qui était assez étonnant, c'est que ils avaient plus ou moins un style Saint-Soleil, ok, tout en étant différents chacun de l'autre. C'est-à-dire que là, je pense qu'on commence à avoir une espèce de dégradation de la créativité au niveau de Saint-Soleil, parce que Tiga disait toujours, il faut faire attention au côté commercial. Parce que maintenant, quand il commence à vendre, parce qu'au début, Tiga ne voulait pas vendre. Mm-hmm. Il dit, attention, parce que si maintenant vous rentrez dans cet aspect commercial des choses, vous allez perdre votre créativité. Et d'ailleurs, on peut voir ça maintenant, qu'il y a des artistes qui se répètent et puis qui font la même chose.
Ouais, ça devient une fabrication à la chaîne.
Une fabrication à la chaîne, ils font des assiettes du même tableau, bien des plateaux pour servir du café, etc. Donc, c'est le danger. Par contre, il a aussi travaillé sur la nouvelle génération Saint-Soleil. Pour qu'on ne perde pas justement ce fil conducteur et ce côté authentique et rustique, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour permettre à ces artistes non seulement de rester et de garder leur authenticité, leur originalité, mais aussi de se renouveler, parce qu'il ne faudrait pas que cette nouvelle génération continue à faire des prospects à Pierre-Louis ou bien de le voir exil. Hein? Ouais. C'est comme ça qu'on a eu maintenant d'autres artistes ou qui se sont donné des noms aussi,
oui.
des pseudonymes.
J'ai rencontré par exemple O'Neill.
Il y a O'Neill, ok. Maintenant, O'Neill a développé sa créativité à partir de morceaux de tissu découpés et collés. Ok, donc O'Neill a inventé, okay, sa manière de s'exprimer. Si on pense Zaka par exemple, ok, c'est un autre. Payas, c'est aussi un autre artiste vraiment très prolifique et aussi très intéressant dans ça. Et Payas maintenant commence à rentrer aussi dans un aspect contemporain de Saint-Soleil. Et de Payas maintenant, on va tomber dans Sébastien.
Ouais.
Okay. Et Sébastien est venu après Stevenson Magloire. Donc, il y avait la famille Magloire. Okay. Il y avait Louisiane, bon, Saint-Florent.
Mais Sébastien Jean a des liens avec Saint-Soleil?
Ah oui, Sébastien et Jean est de l'école Saint-Soleil, il habitait la montagne. Et il est venu après Stevenson Magloire, qui était une espèce de révolutionnaire du Saint-Soleil, de la nouvelle génération. Il était fils de Louisiane Saint-Florent. Okay? Et toute la famille Magloire, c'était des frères et sœurs, ils étaient tous des artistes. Il y avait Louisiane, il y avait Aliciane. Et il y avait Magda qui est morte récemment. Il y a aussi Memphis. Memphis, c'est le seul qui existe de cette famille-là. Et Stevenson, lui, bon, comme enfant terrible, il est mort et assassiné après une transition, après un coup d'État. C'était vraiment tragique, oui. Parce que c'était un artiste d'un talent extraordinaire. On l'appelait même le Basquiat haïtien. Ouais. Enfin, le Basquiat d'Haïti, parce que ouais. Basquiat est à moitié haïtien de toute façon.
Ouais. Philippe Dodard, est-ce que le mouvement Saint-Soleil a voyagé, a fait des foires internationales d'art contemporain? Est-ce que ce mouvement a pris la mer?
Absolument, Tiga était le premier à faire voyager maintenant tout ce mouvement Saint-Soleil à travers les Polonais, okay, qui s'intéressaient au théâtre, quoi que c'était Gotowski, j'ai oublié son nom. Mais Tiga est allé en Pologne avec toute l'équipe de Saint-Soleil, ils ont fait leur théâtre, des manifestations de chant et de danse et d'expositions de peinture, et c'était vraiment formidable. Et c'est après maintenant que Saint-Soleil a été connu en France, aux États-Unis et partout, et ils ont voyagé à travers le monde.
Toi aussi, Philippe Bedard, tu es artiste. Est-ce que ta démarche à toi a quelques dettes esthétiques envers Saint-Soleil?
Bon, et moi j'ai une dette esthétique envers Potomitan, et donc et Saint-Soleil est issu de Potomitan. Donc je pense que la méthode pédagogique de Tiga m'a beaucoup influencé, parce que j'ai été un disciple, je dirais, et pas un élève, mais un disciple de Tiga depuis l'âge de 14 ans. Je l'avais perdu de vue et on s'est revu bien plus tard, et quand il avait réouvert son retour en Haïti, Kai Tiga à Bourdon. Et c'est là que maintenant, cette exposition s'appelait Le Noir et Blanc. D'ailleurs, c'est ce qui m'a remis au Noir et Blanc, parce que je faisais du Noir et Blanc avec Patrick Villers. Parce que pour Domitant, c'était Patrick Villers, Frido et Tiga. C'était trois artistes ensemble. Et Frido était un spécialiste d'argile, okay, qui faisait de la céramique. Et Patrick faisait des encres, et Noir et Blanc sur papier, aussi des collages. Sur papier, c'était son médium, c'était surtout le papier. Et Patrick s'est dirigé plus tard vers seulement la sculpture, parce qu'il a découvert qu'il était beaucoup plus sculpteur que peintre. Il a abandonné la peinture maintenant pour vraiment rester, pour s'exprimer totalement dans la sculpture. Et Patrick est devenu l'un des plus grands sculpteurs du monde.
En effet.
Oui. Donc certainement que cet enseignement du Potomitan, je l'ai en moi, donc c'est à travers cette méthode du Potomitan que je continue à m'exprimer, et je me nourris aussi de cette peinture populaire qu'on retrouve soit de Saint-Soleil ou bien soit de l'école du Cap ou bien de tout ce qui se fait qui reflète justement la culture haïtienne.
Et là maintenant, quel est l'état de santé du mouvement Saint-Soleil?
Bon, comme je vous dis, et je pense que premièrement, il faudrait qu'il y ait du sang neuf, okay, que l'on reprenne l'esprit du village Saint-Soleil. Je pense qu'ils ont perdu un peu cette unité. Bien qu'ils sont toujours soudés, mais avant, il y avait quand même des manifestations culturelles qui se faisaient dans la montagne. Et je pense qu'on aurait pu mieux faire connaître ce qu'on appelle le village Saint-Soleil, parce qu'il y a des gens qui passent, qui ne savent même pas qu'il y a tous ces ateliers-là. Donc, des fois, on voit quelques tableaux exposés sur un mur, mais le Saint-Soleil, c'est plus que ça. Donc, on parlait tout à l'heure de ce musée, ouais. Qui a pris naissance maintenant dans l'ancienne maison de Maud Robard, mais ce n'est pas connu. Donc, je pense qu'il faudrait accompagner ces artistes de Saint-Soleil, et même les ressouder entre eux, parce qu'ils sont capables même aussi de faire beaucoup de choses, parce qu'ils sont très créatifs. Donc un artiste comme Le Voix Exil a un potentiel de créativité extraordinaire, les O'Neill, les AK, etc. Et Payas et beaucoup d'autres. Ouais. Donc ils sont nombreux, et maintenant même leurs enfants aussi, c'est comme une tradition qui passe de père en fils ou de mère en... Ouais. En fils ou en fille. Donc, le mouvement Saint-Soleil, je dirais, est bien vivant, sauf que on doit faire attention à l'aspect commercial.
Ouais, faire attention à l'aspect commercial. Je précise rapidement que tu diriges l'École nationale des arts. Tu as donc une école de peinture à l'intérieur de l'ENAT. Est-ce que les étudiants que tu brasses te donne espoir dans l'avenir de la peinture haïtienne?
Je pense que enfin, nous avons des étudiants et nous avons l'avantage à l'École nationale des arts d'avoir quatre disciplines qui coexistent dans le même espace. C'est le théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques. Donc je me retrouve justement dans cette ambiance de potomitan, de rotation artistique. Ok, c'est bien que bon, ceux qui font de la musique ne font pas nécessairement de la peinture, mais je pense que avec cette cohabitation, il y a quand même une espèce d'interaction dans ces différentes disciplines artistiques et ça les nourrit l'un et vers l'autre, etc. Donc c'est intéressant. Le NART maintenant traverse une crise, je dirais, structurelle qui a besoin justement d'une réforme. Et je m'inspire beaucoup justement de cette expérience du potomitan pour pouvoir infuser cette culture justement d'inter et connexion des différentes disciplines. Et nous sommes en train maintenant de travailler sur ce nouveau concept de l'école qui doit être restructuré parce qu'on ne peut pas continuer justement à enseigner l'art dans n'importe quelles conditions. Et je pense que l'environnement aussi est important pour les artistes de pouvoir se sentir vraiment dans un espace convivial, proche de la nature, et aussi qu'ils puissent voyager à travers le pays aussi, apporter ce qu'ils ont appris et développer la culture à travers le pays. Parce que nous avons cette tradition de nos fêtes champêtres, etc., du carnaval, de nos monuments historiques, etc., qui sont là en perdition et puis qui perdent leur identité. Nous avons une histoire tellement riche. Donc je pense que l'art a un rôle à jouer dans le développement économique et touristique du pays. Donc l'ENARTS doit avoir justement cette importance capitale. Ok, donc c'est pour ça que je me dédie justement à et refaire les NARTS que Haïti mérite et que nos étudiants méritent.
Merci Philippe Bedard.
Merci.
Chers amis du bonheur, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aux partenaires de cette émission que sont l'ambassade de France en Haïti, l'ambassade de Suisse en Haïti, l'OIF, la Focale. Merci à James Guillou qui assure le montage. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. N'est-il pas dit que nous sommes dans un temps de carnaval? Je vous laisse avec Traite, Barricade Crew. Gardons bonheur.
Yo divise pays à en tête. Pour l'autre la fonctionner, l'oblige by l'autre la route douette. Ambition parvenu ni pour une chita tête à tête. Tout journée n'a boumé devant mon temps pour bon Tibet. 2019 tout neuf, dis qui ça n'a fait. Quatre comment mon a tombé, est-ce que nous pas fait? Nous tout connaît problème pays en ces corruption. En nous suspendre la blabla, qu'on y a une bonne solution.
Yo, a fait traite, avec Tibet qui a. Je ne la ta route, pas ta jeune gaz pour mettre en tête du gars. Et puis, la ria pas bon, ou n'y en a grand goût.